Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Politique. Il est ou elle est de tous les mariages, de toutes les élections, de toutes les célébrations, mais aussi localement de tous les drames. Le maire ou la maire que vous allez élire ou réélire demain et dimanche prochain, en politique, il est sans doute peu de fonctions qui appellent des profils aussi disparates. En effet, qu'y a-t-il de commun entre le premier édile d'une très grande ville avec des dizaines de millions d'euros de budget et le maire d'un village? Rappelons d'ailleurs que 97% des communes françaises comptent moins de 10 000 habitants. Et pourtant, ces deux figures sont liées dans l'imaginaire collectif, par leur écharpe tricolore bien sûr, par leur popularité aussi. Le maire ou la maire continue d'inspirer la confiance d'une majorité de leurs concitoyens, à en croire les sondages, quand la quasi-totalité des autres fonctions politiques sont tombées dans le discrédit et dans la défiance. Comment expliquer historiquement ce rôle particulier, central, en France? Comment la charge de maire a-t-elle évolué au fil du temps? Et qu'en sera-t-il demain? Voici les questions que nous allons examiner en compagnie de notre invité, Olivier Hill. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous répondez depuis Grenoble, où vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Merci d'avoir accepté notre invitation. 35 000 communes, on entend souvent que c'est une exception française en Europe. D'où vient ce maillage, d'où vient ce mot de commune?
Alors le maillage lui-même dérive de l'histoire des paroisses françaises. Elles étaient très nombreuses au Moyen-Âge. À la fin du XVIIIe siècle, on en recense encore plus de 46 000. Et le terme de commune, lui, désigne une institution beaucoup plus ancienne, qui remonte au XIe siècle, qui désignait, si vous voulez, une communauté, communiste, ce qui est en commun, et une figure qui va voir progressivement apparaître en son sein le rôle spécialisé du maire, le maior médiéval, qui désignait à l'origine l'homme qui administrait, pour le compte d'un seigneur, les affaires d'un terroir.
Et alors, comment ont-elles été dessinées géographiquement, ces communes?
Alors, ces communes recouvrent très exactement le pourtour des paroisses. Et donc, l'histoire de cette géographie administrative est très intimement liée avec l'histoire religieuse de la France. C'est avec un décret en décembre 1789 que ce tracé va être fixé tel qu'il est aujourd'hui encore, et là va être, au fond, jeté dans les oubliettes de l'histoire tout l'héritage féodal, mais on peut aussi dire toute la dépendance de ces communes d'hier avec les institutions religieuses, également toute l'histoire corporative de ces communes, c'est-à-dire tout ce qu'elles devaient au rôle des métiers dans la représentation politique.
Alors il nous faut tout de suite dire que depuis la Révolution, le maire n'a pas toujours été élu par les citoyens. On va brosser à gros traits d'abord cette histoire avant de rentrer dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous détailler les périodes, Olivier Hill, où il a été élu et les autres où il a été nommé?
Alors, la première période la plus flamboyante, c'est évidemment le début de la Révolution française, de 1790 à 1792. Là, nous assistons à la naissance de la démocratie locale. Le 15 juillet 1790, les premières élections municipales ont lieu et conseils municipaux et maires sont investis d'une très forte confiance. On attend de ces institutions qu'elles relèvent la France et qu'elles fassent face aussi au pouvoir de l'État, qui est très mal vu à l'époque. Nous sortons de l'Ancien Régime. Ces maires vont cependant avoir une histoire très courte, puisque en 1792, on va les associer à la peur du fédéralisme, donc l'institution sera éliminée, j'allais dire décapitée, le mot est fort. Et il faudra attendre 1800 avec Napoléon pour que ces institutions soient relevées, mais simplement avec une réserve très importante, désormais soumise à la nomination. Le pouvoir d'État, centralisé, bonapartiste, va contrôler très étroitement les conditions dans lesquelles ces maires et ces conseils municipaux vont travailler.
Alors on va venir dans un instant à la grande loi de 1884 qu'il faudra forcément évoquer, puisque c'est elle qui va redonner du pouvoir et de la légitimité démocratique au maire. Mais d'abord, Olivier Hill, je vous propose d'écouter le premier maire de Paris, c'est Bailly, Jean-Sylvain Bailly, en 1789, interprété ici dans le film La Révolution française de Robert Enrico en 1989.
Ainsi, vous voici maire de Paris, monsieur Bailly?
Oui, votre majesté.
Et jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de maire à Paris.
Les électeurs ont jugé qu'il en fallait un.
Ah, s'ils l'ont jugé.
«
Voilà, Jean-Sylvain Bailly avec les cloches, qui est maire de Paris. Mais ce n'est pas par là, Olivier Hill, qu'il est resté dans l'histoire, c'est plutôt par son rôle de président de l'Assemblée nationale en 1789. Quel pouvoir a-t-il comme maire? Il faut signaler qu'auparavant, on parlait du prévôt des marchands. Hein.
Oui, tout à fait. Ce prévôt aura d'ailleurs une fin malheureuse, ce qui sera le cas aussi de Bailly. C'est une belle figure intellectuelle, un mathématicien, un astronome, qui, membre de la Société des Amis de la Constitution, va exercer très vite un leadership, à Paris mais aussi en France, puisqu'il sera élu député en mai 1789 et deviendra le président du tiers-État, puis le président de l'Assemblée nationale, vous l'avez rappelé. Ses compétences à l'époque sont celles classiques de la police, de l'action sanitaire, du commerce. Ce sont des compétences encore assez floues, car les textes ne sont pas aussi précis qu'aujourd'hui. Et c'est surtout à son prestige, à l'auréole qui l'entoure, qui pèse sur lui, que véritablement il doit d'avoir pu devenir un maire important jusqu'à sa fin, qui sera en novembre 1791, sa démission, puisque, on le sait, au lendemain de la fusillade du Champ de Mars, liée à la fuite du roi, eh bien, il va devoir quitter ce pouvoir. Et c'est la fin, bien sûr, de son mandat, mais aussi d'une certaine histoire de la représentation municipale.
Et tout au long de l'histoire, il y a cette méfiance pour le rôle des maires. On le voit, la monarchie de Juillet les nomme. Pourquoi faut-il attendre aussi longtemps, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle, pour qu'ils soient à nouveau élus par leurs concitoyens?
Vous avez raison, tout au long du XIXe siècle, hein, ces pouvoirs locaux vont être entourés de suspicions, de méfiance, dans une nation qui se veut centralisée, indivisible, dans un pouvoir monarchique restauré, dans des empires qui craignent ces puissances locales, eh bien, le maire va être associé à un risque politique majeur. C'est la raison pour laquelle ils seront sous la monarchie de Juillet, mais avant, sous la Restauration, et même sous la Seconde République, ils continueront, au-delà d'un certain seuil de population, à être désignés, alors sous le Premier Empire, par les préfets et par le Premier Consul lui-même, hein, pour les maires des plus grandes villes, et puis tout au long du XIXe siècle, jusqu'à la fameuse loi de 1884 dont nous allons parler, eh bien ils seront au fond des créatures, hein, du pouvoir central, des agents du pouvoir, et perçus comme tels.
En 1871, la Commune de Paris, rien que ce vocable et cette révolte qui gronde dans la capitale, montre bien que finalement le pouvoir central avait peut-être raison de se méfier.
Oui, et la Commune, le mot le dit, hein, est une revendication d'émancipation. Il s'agit d'affirmer haut et fort l'autonomie du local, l'autonomie des assemblées populaires, l'autonomie de la volonté des populations elles-mêmes, face à une puissance d'État qui, sous tous les régimes, a été perçue comme confiscatoire. Et donc, c'est une histoire tout à fait nouvelle qui s'ouvre là. Malheureusement, c'est une histoire qui sera très brève et il faudra attendre les lois de 1982 pour que ce mouvement de décentralisation soit repris avec vigueur. C'est vous dire si l'interruption sera grande, près d'un siècle, hein, d'attente entre la Commune et les lois de 1982.
Et voici justement ce grand tournant qu'on évoquait, 1882-1884. Nous sommes au temps de Jules Ferry. On parle des républicains opportunistes au gouvernement. Il décide que les maires seront élus pour 4 ans à l'époque et d'instaurer un régime juridique uniforme pour toutes les communes qui auront une clause de compétence générale, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'occuper de tout ce qui les concerne sur leur territoire. Quelle est la philosophie de cette loi? Pourquoi est-elle promulguée à l'époque?
Alors cette loi est très importante. Le 5 avril 1884, ce qui apparaît en France, c'est le principe de l'élection du maire et des adjoints, sauf pour Paris évidemment. C'est l'idée d'un mandat relativement court, de 4 ans. C'est l'idée, il faudra attendre 1929 pour qu'il passe à 6 ans, c'est l'idée aussi de petit à petit rattraper les pays étrangers qui font confiance pour leur part à ces pouvoirs locaux et permettent cette représentation du territoire et des populations. Et ce schéma va évidemment se conforter au fil du temps, et on verra progressivement la commune devenir l'incarnation d'une démocratie locale beaucoup plus mature. C'est un mouvement tout de même qui est très en retard à l'échelle de l'Europe, c'est un mouvement très progressif, c'est une longue histoire, mais une histoire passionnante, puisqu'au fond c'est celle de la démocratie du quotidien.
Et pour ces premiers maires élus, il y a, en 1884 en tout cas, il y a la volonté d'implanter la République, on parle de République paysanne, jusque dans ces territoires les plus éloignés de la capitale.
Oui, les républicains emmenés par Gambetta, et on pense à son fameux programme de Belleville en 1869, ont une stratégie. Pour renverser la centralisation impériale, dont ils ont tant souffert sous le Second Empire, ils vont faire confiance au pouvoir local, aux campagnes, à la ruralité. Et pour cela, vont mettre en place une sorte de grande alliance entre Paris et les maires de France. On le verra à l'occasion de deux grandes manifestations, les banquets des maires de 1889 et 1900, qui vont réunir dans la capitale plus de 13 000 maires d'un côté et plus de 22 000 édiles locaux de l'autre. Ces grandes réunions festives où l'on boit, l'on chante, l'on prête hommage à la République, étaient là pour mettre en scène la réconciliation du pouvoir central sous son visage républicain, avec l'ensemble de ces territoires qui, en quelque sorte, venaient éclore à la représentation politique.
Est-ce que l'État garde tout de même un contrôle sur ces maires qui se sont émancipés ?
Oui, d'abord parce que, si vous voulez, le rôle du maire reste tout de même celui d'un agent de l'administration, un agent du pouvoir central. De ce point de vue-là, cette longue histoire qui remonte à la Constitution civile du clergé en juillet 1790, la lutte de l'État contre l'Église n'est pas abolie. Hein. L'officier municipal reste une sorte de digue face aux prétentions des curés. On le verra à l'occasion des conflits sur les cloches. Hein. Qui a accès aux cloches ? Qui peut faire sonner les cloches ? C'est une sorte de conflit que l'on peut prendre avec humour, mais qui fut très sérieux, sans doute l'une des plus vives conflictualités du 19e et du début du 20e siècle en France, hein, qui a accès aux cloches. Et on le verra par la suite avec, évidemment, toutes les péripéties qui vont suivre l'émergence d'un pouvoir laïque au lendemain des lois de 1905.
Et ces grandes lois de 1884 permettent l'émergence de grandes figures locales, comme le radical Édouard Herriot à Lyon, réélu 11 fois à Lyon à partir de 1905. On pense aussi au grand nom du municipalisme socialiste, comme Édouard Rey à Grenoble. Olivier Hill, il nous faut aborder un point particulier, c'est celui de Paris. Paris jusqu'en 1977, et c'est Jacques Chirac à l'époque qui est le premier maire de Paris. Eh bien, à Paris, les habitants ne votent pas pour leur maire. Pourquoi cette exception ? Est-ce par crainte d'une répétition de la Commune ?
Oui, bien sûr, le souvenir qui entoure la ville de Paris est extrêmement cuisant. C'est celui des insurrections, des révolutions, d'une ville frondeuse, d'une population prête à s'insurger. Et le pouvoir central n'a eu de cesse, depuis, on l'a vu, la fin du XVIIIe siècle, évidemment, d'organiser un corset pour empêcher cette ville de prétendre à l'autonomie et donc de venir contester dans la ville elle-même, dans sa matérialité, le rôle de la puissance publique. C'est la raison pour laquelle, en 1977, Jacques Chirac va réussir quelque chose d'assez inouï, non seulement en étant le premier maire, hein, et on voit le caractère tardif de la reconnaissance du fait municipal à Paris, mais en battant le candidat de l'Élysée, très explicitement Michel Dornano, en quelque sorte le caractère frondeur de Paris pour cette première expérience d'élection d'un maire sera à nouveau manifeste, puisqu'on verra l'Élysée céder sur ce terrain.
Et on va en reparler. Vous écoutez Politique sur France Culture jusqu'à 12h30 et en podcast, on évoque aujourd'hui l'histoire des maires et des communes en compagnie du professeur Olivier Hill. Alors le maire est élu par le conseil municipal qui procède bien sûr du suffrage universel masculin d'ailleurs jusqu'à 1945. On peut parler d'un baron local, hein, c'est le terme qu'on utilise souvent. On peut penser au cas entre autres de Jacques Chaban-Delmas, élu à Bordeaux, tenez-vous bien, entre 1947 et 1995, écoutez.
À Bordeaux, ben je serai candidat.
C'est pas une surprise.
Non mais, c'est ça que je vais faire. Vous me demandez ce que je vais faire. Eh ben je suis candidat à continuer. Je suis candidat à continuer parce que, entre nous, rien n'est plus passionnant que d'être maire responsable d'une ville. Et naturellement, avec la présidence de la communauté qui complète ce travail.
Jacques Chaban-Delmas dans Interactualité en 1976. Olivier Hill, la mairie, cette baronnie locale, est aussi parfois un socle pour partir à l'assaut du pouvoir national.
Complètement, c'est un fief, et le mot dit beaucoup de choses, hein, de cette longue histoire quasi féodale de la constitution d'une puissance venant contester le pouvoir central. Ces barons locaux, ce sera une figure comme Gaston Defer, hein, de 1953 à 1986, à la mairie de Marseille. Ce sera, pour le Parti Socialiste, toujours Pierre Mauroy, de 1973 à 2001. Ce sera, évidemment, on en a parlé à l'instant, Édouard Herriot. De 1905 jusqu'à 1940, puis de 1945 à 1957, il est maire, établissant comme une sorte de record. On pense aussi à Aimé Césaire, à Fort-de-France, 56 ans maire. Bref, ce sont des exemples qui montrent que la mairie peut devenir une sorte de vivier, mais aussi une sorte de marchepied pour des carrières politiques très longues, et ils seront en quelque sorte des autorités locales inexpugnables.
Même si Jacques Chaban-Delmas n'a pas réussi son pari d'accéder à la présidence de la République. Le chercheur Emmanuel Bélanger parle de l'émergence du maire du XXe siècle comme d'une figure, je cite, « sympathique et intouchable ». Est-ce que ces termes vous semblent justes ?
Oui, parce que ce qui caractérise, en tout cas, ça a été vrai jusqu'il y a quelques années, ce mandat politique, c'est l'idée de proximité. C'est la facile reconnaissance qu'en ont et qu'en font les électeurs. Ce sont des figures politiques qui sont jugées effectivement sympathiques, accessibles, que l'on peut croiser au marché, au café. Et ces hommes politiques et femmes politiques vont jouer de cette proximité pour, en quelque sorte, consolider leur puissance locale et devenir imbattable et devenir même incontestable par les autorités nationales. Et c'est bien sûr cette dynamique que l'on voit progressivement mise en cause aujourd'hui, puisque, il faut le rappeler, en 2014, la participation électorale a été très en baisse. Nous sommes
36%
un peu plus de 60, voilà, un peu plus de 60% de participation, 63 ou 64% de participation, et l'on s'attend aussi à une dynamique de cette nature pour les années qui viennent, puisque c'est une tendance que l'on observe depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années.
Alors la fonction de maire est censée être l'échelon démocratique le plus accessible pour les citoyens qui veulent se présenter. Pourtant, c'est aussi une fonction qui a généré de grandes dynasties. On peut penser à la famille Médecin à Nice, à la famille Baudis à Toulouse, la Normandie avec la famille Dornano. Vous évoquiez Michel Dornano qui s'est présenté en 1977 à Paris. Comment expliquer cette apparente contradiction ? Tout le monde peut se présenter et pourtant on a comme ça des dynasties qui perpétuent.
Eh bien, ce sont les mécanismes de reproduction de ce qu'on pourrait appeler les ressources politiques locales ou le capital politique qui peuvent l'expliquer. C'est-à-dire que, effectivement, une fois que vous êtes implanté, que votre réseau est tissé, que cette proximité est confortée par des rapports quasi quotidiens de retrouvailles, d'échanges, eh bien, le mandat, en quelque sorte, se durcit, se consolide. Et l'épreuve de l'élection n'est plus, dans un certain nombre de cas, qu'une formalité. Par ailleurs, ne l'oublions pas, le cumul des mandats, qui a longtemps dominé la vie politique française, a permis à ces élus locaux de trouver à Paris, à la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, des compléments pour des ressources nouvelles, pour consolider cette position. Bref, par quelque bout qu'on le prenne, le rôle du maire est devenu, à ce moment-là, celui d'une autorité politique centrale, une autorité politique difficilement contestable sur le plan local, d'où cette logique dynastique qui va se mettre en place, ce qui montre au fond que les révolutionnaires n'avaient pas eu tort à un certain moment d'y voir une sorte de contre-pouvoir à la puissance parisienne.
Et d'ailleurs, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron s'est tourné vers les maires. C'est avec eux qu'il a mené le premier grand débat, on s'en souvient. Il leur a demandé d'ailleurs d'en faire de même dans leur commune, s'appuyer sur les maires pour résoudre, pour atténuer une crise. Il y a eu des précédents historiques ?
Oui, on l'a vu pendant les guerres. J'écarte évidemment l'épisode de Vichy qui voit la suppression de ces mécanismes électifs. Mais on l'a vu pendant les grands moments de tension à l'épreuve du boulangisme. Par exemple, il fut répondu par ce fameux banquet des maires de 1889. Donc les présidents, à l'époque il s'agissait de Sadi Carnot, les présidents ont joué régulièrement de cette capacité qu'ont les maires à emblématiser la délibération, la confiance, l'implication des territoires, de la nation, contre précisément les petits groupes ou les prétentions folles d'un Paris insurgé ou d'un Paris acquis à des idées de bouleversement. Bref, c'est cette puissance conservatrice, pacifiée, apaisante, qui a été sollicitée par les présidents. Aujourd'hui, on le voit, dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, ce ne fut qu'une répétition.
Alors, dans ce rapport entre le pouvoir des maires et le pouvoir central, il y a aussi l'ambiguïté de la décentralisation. Parfois, certains édiles demandent plus de pouvoir, mais pas plus de contraintes. Ils disent qu'ils explosent sous les normes. Écoutez comment le ministre Gaston Defferre, qui met en œuvre la décentralisation sous François Mitterrand, l'expliquait. Nous sommes le 15 juillet 1981.
Actuellement, en France, quand un conseil municipal délibère, ses décisions ne sont applicables la plupart du temps qu'après approbation du préfet et approbation de un ou plusieurs ministères. C'est-à-dire qu'il faut souvent plusieurs jours et parfois plusieurs mois, plusieurs années, avant qu'une décision prise dans une ville ne soit réellement exécutoire. Le maire administre sa commune. Et sur le plan régional, il en est de même. Présenter un texte qui prévoit la suppression de toutes les tutelles sur le plan départemental, municipal, départemental et régional, c'est apporter une innovation considérable. C'est une véritable révolution pacifique.
Gaston Defer, Olivier Hill, qui connaissait bien son sujet.
Oui, il savait de quoi il parlait et il vise d'ailleurs très justement à travers cette intervention ce qui est en jeu ici, ce que l'on appelle dans un langage plus technique l'autorisation a posteriori ou le contrôle a posteriori des actes administratifs. C'est l'idée toute simple selon laquelle au fond les municipalités peuvent prendre des initiatives dans les domaines de compétences qui sont les leurs, peuvent commencer à mettre en œuvre des décisions, des politiques publiques. Les instances de contrôle feront leur travail après. Et cela permet évidemment une meilleure réactivité, cela permet aussi de mieux comprendre l'action publique locale. C'est un véritable mouvement de bascule qui s'opère là, au-delà des compétences techniques qui sont allouées, qui sont précisées par la grande loi de décentralisation. C'est quand même bien ça le mouvement essentiel. Désormais, l'initiative revient aux mairies.
Alors justement, puisqu'on parle des mouvements de bascule et des pouvoirs des maires, un autre changement, un peu technique, il faut le concéder, c'est la création des intercommunalités, des communes qui se regroupent pour prendre des décisions en commun, précisément. Jusque-là, tout va bien. Antoine Dulster nous a rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour.
Mais cela pose aussi des questions démocratiques.
Oui, ces questions démocratiques étaient déjà posées il y a quelques décennies. On entendait tout à l'heure la voix de Jacques Chaban d'Elmas. Conquérir une mairie, oui, mais avec en ligne de mire la présidence de l'intercommunalité, car c'est là que réside de plus en plus le vrai pouvoir. Alors, pour mieux comprendre cette évolution qui ne date pas d'hier de notre vie politique, j'ai interrogé un spécialiste de ces questions, le sociologue David Guéranger. Je lui ai demandé quelles implications avait cette montée en puissance des intercommunalités, notamment dans la sociologie des élus locaux aujourd'hui.
Le maire qui siège dans l'intercommunalité va être enclin à s'afficher plus comme un élu compétent qui maîtrise la technique, qui sait négocier avec ses alter-ego maires des autres communes. Le maire qui n'y siège pas, lui, va plutôt être enclin à faire œuvre de proximité, à montrer qu'il est à l'écoute, qu'il reste disponible, qu'il est à temps plein sur la commune, etc., etc. La différence entre les maires qui siègent dans l'interco et les maires qui ne siègent pas dans l'interco fait apparaître un processus très très inégalitaire, pas seulement spatialement, mais socialement, c'est-à-dire que il favorise des individus qui sont plus diplômés, qui vont pouvoir mettre en avant leur expérience professionnelle, et donc l'interco en quelque sorte accentue un effet de sélectivité, alors qui est déjà à l'œuvre parmi les maires de la République. On voit déjà que les maires de la République sont plutôt âgés, ce sont plutôt des hommes, enfin très, très fortement des hommes. Et ce sont plutôt des individus qui ont un niveau de diplôme supérieur à la population française. On assiste en quelque sorte à une fermeture du recrutement social des élites locales qui est très largement renforcée par l'intercommunalité.
Et il faut signaler une évolution récente dans ces intercommunalités. La figure du maire très implantée localement, le notable, tend à s'effacer au profit d'une autre figure que David Guéranger appelle le missionnaire. Ce sont des cadres souvent jeunes et très diplômés de l'action publique locale. Cette transformation sociologique recoupe parfois des changements de génération, mais pas seulement, on l'écoute.
Un autre effet important, me semble-t-il, dans le cas de l'intercommunalité, c'est les nombreuses réformes qui ont scandé les décennies 90, 2000 et 2010, les réformes du local, mais qui ont touché de façon plus ou moins directe à chaque fois les structures intercommunales. Et ces réformes-là ont une conséquence très concrète, c'est de remettre en permanence sur l'ouvrage la question de l'organisation administrative de ces structures intercommunales. Bref, ces réformes ont produit et incité, favorisé du coup les compétences de type managérial qui sont précisément les compétences que mettent en avant les dirigeants missionnaires. Donc pour le dire de façon un peu ramassée, toutes ces transformations de fond qui accompagnent, voire qui accélèrent l'intercommunalité, elles ont tendance à créer et à rapprocher des figures à la fois celle des dirigeants politiques et des dirigeants non politiques, sur des bases qui, en l'occurrence, sont des bases très politiques, des manières de voir l'action intercommunale et de voir les réalisations intercommunales qui sont très empreintes de nouveaux managements publics, par exemple.
Voilà, c'était le sociologue David Guéranger qui est co-auteur avec Fabien Lesage d'un ouvrage intitulé « La politique confisquée, sociologie des réformes et des institutions intercommunales » qui était publié en 2011 aux éditions du Croquant.
Merci Antoine Dulster. Olivier Hill, l'intercommunalité, c'est la fermeture du recrutement des élus, comme on vient de l'entendre.
Non, je ne crois pas. Je pense que c'est une nouvelle étape, une phase historique nouvelle qui s'ouvre avec, de la part du législateur, une volonté très simple. Il s'agit de sortir d'une situation où, avec 34 000 communes, l'action publique reste encore très émiettée, parfois incohérente, manquant de moyens, empêchée sur toute une série de domaines. Mais pour le profil des élus, c'est tout simplement une histoire qui, elle, remonte à bien plus longtemps. C'est celle de la transformation du visage des élus.
Alors
avec le mouvement de féminisation, avec le mouvement de rajeunissement, même s'il est encore assez timide, et puis avec un mouvement, en quelque sorte, de rurbanisation, pourrait-on dire, des profils d'élus, puisque la figure du maire retraité, campagnard, cultivateur, cède la place à des logiques beaucoup plus techniques et de cadre, disons, si on veut prendre à très très grands traits ce qu'est devenu le profil de ces élus communautaires.
Sur les intercommunalités, précisément, elles sont encore plus masculines que les mairies, qui elles-mêmes sont déjà très masculines. On compte 16% de femmes dans les fauteuils de maire. Elles sont plus de 40% des députés. Pourquoi ?
Eh bien, parce que nous partons de très loin. Rappelons que ce n'est qu'en 1947 que les femmes ont pu accéder à cette citoyenneté électorale comme électrices et comme éligibles. Donc, c'est vous dire si le mouvement est assez neuf et assez récent, ou le retard important, on peut le lire des deux façons. Et donc, cette féminisation, en plus, ne va vraiment s'opérer qu'à partir des années 70, et encore très timidement, et pour tout dire en un mot, à partir des années 2000, avec l'action du législateur, qui par deux lois en 2000 et 2007, va permettre de mettre en œuvre une véritable logique de parité. Et cette logique de parité va permettre d'atteindre ces chiffres qui sont encore faibles, mais tout de même bien meilleurs que dans les années 60-70, des chiffres qui permettent au fond de démocratiser l'institution municipale et communautaire en lui permettant de ressembler beaucoup plus à ce qu'est la population de ce point de vue-là.
Alors très succinctement, Olivier Hill, s'il vous plaît, une loi votée récemment permet de mieux rémunérer, ou plutôt de mieux indemniser les maires. Est-ce que la rémunération des maires ne s'oppose pas à la philosophie de la fonction, selon laquelle ce n'est pas un métier ? Il faut préciser que la fameuse loi de 1884 énonce que les fonctions de maire sont gratuites.
Oui, c'est un vaste débat. Mais est-ce que cette activité, que l'on résume par le mot de mandat, est désintéressée, gratuite, bénévole, ou est-ce que c'est au fond une logique de métier attachée à un traitement ou une indemnité ou un salaire ? Peu importe ici les mots, même s'ils sont importants, c'est toute la tension qui court au cœur de la démocratie. Doit-on parler de professionnel ou d'amateur ? Alors, cette logique pour les élus locaux, c'est celle d'une fonctionnarisation croissante, c'est-à-dire au fond, mettre en place des garanties qui permettent à ces élus, eux, et élus au sens masculin du terme, de pouvoir accéder plus facilement, plus démocratiquement à ces hautes fonctions de représentation.
Merci beaucoup. Merci Olivier Hill, professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Vous nous répondiez depuis Grenoble précisément grâce à France Bleu Isère. Merci également à toute l'équipe, Antoine Dulster, Romain Masson à la réalisation, Swad Boukorsa à la technique. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr. Vous retrouvez Hervé Gardette dans une semaine, dans 15 minutes, la suite dans les idées avec Sylvain Bourmeau et dans un instant, le journal de la rédaction. Très bonne fin de semaine à vous.